clairement de recentrage de l'Amérique sur ses intérêts, et que ce discours-là nous permet, nous, Africains, de nous réveiller un tout petit peu et de considérer que aller vers l'autodétermination ne dépend que de nous, de notre faculté à pouvoir travailler, produire, pour créer de la valeur.
Merci. On parlera de tout cela dans cette émission. Alors, Scott Bob, vous, votre sentiment à l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis ?
Eh bien, son discours était correct, lu par la texte même. C'était un discours de promesse pour l'avenir et aussi un discours de réconciliation. Et après cette campagne tellement divisive et insultante parfois, c'était nécessaire. Pour promesse, il a dit que plus jamais les politiciens vont s'enrichir en oubliant le peuple. Les citoyens viendront d'abord, les ouvriers surtout. Il a rappelé son slogan de campagne, « Make America Great Again », faisons de l'Amérique grand encore une fois. Il a parlé de faire revenir les usines qui se sont déménagées, déplacées à l'extérieur et donner de l'emploi aux ouvriers. Il a parlé de reconstruire les routes, les autoroutes, les ponts, donc de l'infrastructure. Et puis, il a parlé beaucoup de réconciliation, invoquant des thèmes patriotiques de tout le monde.
Alors, c'est un discours très fort, disent certains analystes. Bagassi Koura, vous vivez aux États-Unis. Comment vous l'avez senti?
Alors, comme il a dit, c'est un discours assez conciliant parce que Donald Trump, dans sa campagne, a promis une ligne assez dure, hein, et beaucoup s'attendaient peut-être à entendre un peu ces mêmes choses. Mais là, il a indiqué que nous étions tous ensemble, l'Amérique, les citoyens étaient tous ensemble et qu'il n'y avait pas de barrière entre les citoyens. Et une chose qui est ressortie aussi, hein, il a dit que nous n'allons pas nous imposer aux autres nations, parlant de sa politique extérieure, et que nous allons diriger par l'exemple. Donc Donald Trump qui dit qu'il va diriger par l'exemple. Et il dit qu'il regrette, hein, que l'Amérique finance les armées d'autres pays. Et donc, si l'Amérique, ce qui ressort, le sentiment qui ressort, c'est un peu comme l'Amérique veut se prendre en charge, va un peu se désengager de certaines de ses prérogatives à travers le monde. Peut-être on pense un peu à l'OTAN. Mais peut-être aussi, hein, des pays sous-développés peuvent se poser des questions. Est-ce que l'Amérique aussi s'apprête à nous abandonner là? Parce que là, que l'Amérique a financé assez...
Alors, je vais rebondir, oui, sur votre fin. Morgan Palmer, si les États-Unis ne financent plus les autres armées, est-ce que vous avez peur que ce soit pareil pour le développement? Parce que les États-Unis financent pas mal d'organisations, d'institutions dans le monde. Si les États-Unis se retirent, comment voyez-vous les choses?
On pense aussi aux Nations Unies. Hein?
Voilà, tout à fait, puisqu'ils sont l'un des plus grands donateurs des Nations Unies. Morgan?
Oui, moi personnellement, je suis contre l'aide au développement, hein, qu'on peut observer en Afrique. Je suis pour qu'on fasse du business win-win. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire très clairement que ce que j'attends d'un entrepreneur comme Trump, devenu président des États-Unis d'Amérique, c'est que aujourd'hui, qu'il ouvre en tant qu'entrepreneur une poche d'opportunité vers l'Afrique. C'est-à-dire qu'on ait des Américains qui viennent commercer avec les Africains. Je ne pense pas du tout que ce qui amènera nos pays à l'autodétermination, c'est d'être dans l'assistanat, d'être aidé. Donc en cela, pour moi, qu'on n'accorde plus d'aide aux pays africains, ne me gêne pas du tout, surtout quand on sait que ces aides... en général, finissent toujours dans les arrière-cours de quelques dignitaires locaux, hein, qui densifient davantage leur parking personnel, qui se construisent des maisons plus que de raison. Donc, c'est un système qu'on a essayé depuis 50 ans bientôt d'indépendance de ces pays d'Afrique francophone et ça n'a pas beaucoup porté de conséquences positives. Donc, que cette aide soit suspendue, pour moi, au contraire, c'est une très très bonne...
Une très bonne chose. Et Bagassi, vous vouliez ajouter quelque chose?
Morgan, c'est Bagassi ici. Et même si cette suspension de l'aide touchait aux Nations Unies, aux organismes comme l'OMS, ça ne vous dirait rien?
Oui, ça ne me dirait rien parce que je pense quelque chose de très simple. Normalement, quand on voit le train de vie, hein, quand ils doivent se comporter en jouisseur, quand on voit le train de vie des Africains, On pense que si un mouvement de solidarité a financé sur l'Afrique aujourd'hui, les Africains sont eux-mêmes capables de financer cette solidarité. Et donc, c'est un peu cautionner la gabégie, le gaspillage qu'on peut observer sur notre continent aujourd'hui, de continuer à envoyer de l'argent, alors que nous avons déjà de l'argent à notre niveau en Afrique, et que nous décidons tout simplement de ne pas l'affecter au bon poste.
Alors, Scott Bob, l'élection de Donald Trump a surpris beaucoup. C'est pas l'homme politique ordinaire, c'est pas quelqu'un en qui beaucoup auraient cru, et pourtant il a battu tous les républicains. Il a battu Hillary Clinton, dont on disait qu'elle avait un nom, qu'elle pouvait même bénéficier de l'expérience de son mari et de tout l'appareil démocrate. Comment justifiez-vous que personne n'a pu barrer la route de la Maison-Blanche à Donald Trump?
C'est parce que je crois que le vote pour Donald Trump, c'était un vote pour le changement, comme pour Barack Obama il y a 8 ans.
Tout à fait.
C'est-à-dire, mais cette fois-ci, c'était du côté conservateur au lieu du côté libéral. Alors, ça veut dire quoi? C'était une vote contre l'établissement Washington. Et M. Trump l'a très bien compris très tôt. Et il a basé son discours beaucoup sur la thèse que vous, les citoyens, les ouvriers, le peuple, on ne vous écoute pas, on ne vous représente pas à Washington. Alors, je crois que c'est ça. Et on voit, par contre, que c'est pour ça qu'il a battu le jeune Bush, Jeb Bush, il a battu tous les gens de l'établissement républicain.
Alors, quelques réactions sur Facebook. On a celle de Issa Bachir Baud qui dit « L'investiture de Donald Trump est le début du malheur pour le monde. » Je ne sais pas pourquoi il le dit. Et un autre avis, celui de Maurice Jontou qui dit « À mon avis, rien de spécial. Les Américains ne préservent que leurs intérêts. » Et on a une autre réaction, celle-là, qui dit de Alba Jérémy, qui dit qu'il ne fasse pas comme Obama, nous avons besoin de lui en Afrique, et on va continuer cette émission. Morgan, est-ce que l'effet Donald Trump aux États-Unis peut se reproduire quelque part dans le monde, y compris en France où vous êtes?
Oui, mais je disais à quelqu'un la semaine dernière, hein, sous forme de boutade, que la configuration politique en France aujourd'hui fait que n'importe qui peut devenir président. Hein, et c'est un peu ce qu'on peut observer quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment. Et effectivement, il y a aujourd'hui un divorce des électorats avec des classes politiques traditionnelles. Hein, les partis, le grand parti traditionnel, on le voit en France aujourd'hui, puisqu'on a quelqu'un qui, sans avoir d'appareil politique, a créé un mouvement en un mois qui à 100 000 personnes, je parle d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène qui a été sous-estimé, mais qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme la France, c'est 40 ans d'inflation, hein, 40 ans où la dette s'est creusée, les qui ont dirigé la France, c'est les mêmes, hein, sortie de l'ENA. C'est les mêmes qui sont venus pendant 40 ans dire qu'ils avaient des solutions, alors qu'on a un phénomène de paupérisation qui va en s'accroissant. Et donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture de confiance entre ces classes politiques traditionnelles, donc et l'électorat, qui ouvre la voie aujourd'hui à l'émergence de profils, de personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur la scène politique. Donc ce qui se passe effectivement aux États-Unis va avoir un impact sur le reste du monde. On va voir de plus en plus d'élections de personnes inconnues au bataillon, si on peut s'exprimer ainsi.
Alors on va évidemment... vous vouliez ajouter quelque chose, Scott?
J'ajouterais seulement qu'on voit, à mon avis, une sorte de réaction contre la globalisation de ces dernières années. C'est économique. C'est aussi migratoire, c'est dans beaucoup de sens. Alors on voit une sorte de nationalisme qui se ressoulève, et peut-être ça va s'éparpiller dans d'autres pays.
Tout à fait.
Justement, ça s'est fait au prix de celui qui est au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque les élections arrivent, si vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable des conséquences de cette globalisation, de cette migration mondiale, même si vous n'êtes pas, votre politique n'a pas aggravé cette situation-là.
Alors, on va évidemment parler de des défis qui attendent Donald Trump durant cette présidence, mais je voudrais qu'on revoie avec vous, à votre avis, qu'est-ce qui a aidé Donald Trump à être président, en dehors du simple fait qu'il est nouveau, il ne fait pas partie de l'établissement politique. Bagassi, oui.
Oui, moi je pense qu'il a su avoir une bonne lecture du sentiment national et il a su dégager cette image d'un homme qui a réussi. Et qui peut faire marcher l'Amérique, quelqu'un qui a pu bâtir tout un empire dans le domaine de l'immobilier et qui a promis de refaire l'Amérique, de reconstruire l'Amérique de la même façon. Et aussi, son discours populiste, on parlait de migration, notamment de construire un grand mur, parce que certains grands États comme le Texas ou même la Californie souffrent beaucoup de la présence des migrants venant d'Amérique latine. Et peut-être en proposant une solution assez populiste de ce genre, de construire ce grand mur-là, c'est des phrases qui se vendaient assez bien pendant la campagne et que peut-être les vrais politiciens n'ont pas voulu s'engouffrer dans cette voie facile. Et après, chacun l'a pris à ses dépens.
Alors, Scott Bob, vous, qu'est-ce qui a favorisé l'élection de Donald Trump?
Eh bien, je crois que c'est le discours un peu pas ordinaire, et c'est vers la fin qu'on a senti, j'ai senti qu'il y avait une sorte de sursaut, que le centre politique du pays a commencé à dire « Bon, ce monsieur a un discours différent, laissons-le essayer, voyons ».
Voilà. Est-ce que Morgan voudrait réagir sur cette question? Qu'est-ce qui, à votre avis, a favorisé l'élection de Donald Trump?
Favoriser, à mon avis, l'élection de Donald Trump aussi, c'est un rejet de la pensée unique, hein, parce que quand même pendant plusieurs mois, on a entendu des médias parler tous en cœur, dire déjà qu'il y avait une nouvelle présidente aux États-Unis, hein, sans qu'on ne soit passé par la case élection. Et donc à un moment donné quand même, les peuples tiennent à s'exprimer et à dire que leur vote est d'abord l'émanation de leur volonté populaire. Donc il y a ça aussi qui a joué, hein, mais tout, quand je parle des médias, je parle de tout ce qui est corrélé, je parle des instituts de sondage qui ont fait un bourrage de crâne. Donc il y a aussi peut-être une espèce de défiance des électorats traditionnels contre ce système de la pensée unique.
Voilà, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez L'Amérique et vous, édition spéciale ce vendredi. Nous sommes vendredi.
Oui,
ce vendredi
20 janvier
2017. Et nous parlons donc de Donald Trump, 45e président des États-Unis. Qu'est-ce que son élection représente? Qu'est-ce que ça va changer aussi bien ici aux États-Unis que dans la politique étrangère des États-Unis? Avant la pause, Morgan parlait des médias. Et on a vu au cours de la campagne que Donald Trump a toujours, et il continue de le faire, tiré sur les médias, et en même temps qu'il a fait usage d'un médias sociaux, notamment Twitter. Il a plus de 50 millions ou 20 millions autant pour moi de fans, de followers. Et qu'est-ce que cela représente comme force pour lui, Scott Bob?
Eh bien, on se rappelle que M. Obama n'a bénéficié de Twitter seulement que dans les deux dernières années de son deuxième mandat. Alors, M. Trump a découvert une manière, une façon, un véhicule pour parler directement et très vite au peuple, à tout le monde. Il y a plus de 2 millions de gens qui le suivent, 20 millions, pardon.
Oui.
Et donc, c'est ça qui est un peu révolutionnaire ou peut-être plus évolutionnaire, mais je crois que ça démontre le sens où on va.
Et il a dit qu'il allait continuer à tweeter parce que il veut un canal direct entre lui et ceux qui l'ont élu. Morgane, est-ce que l'usage des outils ou des médias sociaux tels que vient de le faire Trump peut servir d'exemple en Afrique, par exemple?
Oui, bien sûr. Mais ça sert même déjà d'exemple en Afrique. Et justement, je vois certains gouvernements qui essaient de faire de la résistance. Je trouve qu'ils essaient d'aller contre le sens de l'histoire. Ça ne marchera pas. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une diversification de l'offre d'information. Hein, donc avec l'accès à l'information par les réseaux, ces réseaux alternatifs, qui aujourd'hui sont venus remettre un tout petit peu en cause la crédibilité même des médias. On a vu plusieurs fois des tentatives de manipuler des informations. Aujourd'hui, ces tentatives sont mises à nu au quotidien sur les réseaux sociaux, et ce qui donne donc un peu plus d'importance et de crédibilité à ces réseaux. Hein. On prend des situations qu'on a vécues ici en France, vous avez des gens témoins d'événements, et par la suite, ces événements sont déformés quand il faut les reporter dans les chaînes de télé, RCN et tout. Alors qu'aujourd'hui, avec les portables et les gens filment les mêmes événements, et donc on a des versions différentes qui sont diffusées dans les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie. Donc effectivement, c'est en train de changer complètement les modes de consommation de l'info du grand public. Il va falloir compter avec. Je crois même que d'ailleurs, il va falloir prioriser sur le rapport direct qu'on peut avoir avec la prise directe qu'on peut avoir avec les publics via ces réseaux sociaux. Il va falloir donner la priorité à ça et non plus aux médias traditionnels.
Voilà.
Sinon, on peut passer à côté des choses, on peut être largué. Ça a été le cas d'ailleurs de votre élection américaine. Voilà. Les médias traditionnels, ce qu'ils prédisaient, n'a pas du tout été la lame de fond qu'on a pu observer dans les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs.
Bagassi Kora, un mot sur les médias sociaux et Twitter et Trump, qui en a fait vraiment son outil de communication.
Oui, je pense que ça a beaucoup aidé Trump, hein, mais la question à laquelle on a du mal à vraiment répondre, c'est que Trump est un cas unique. C'est-à-dire que des situations qui auraient pu créer des problèmes assez sérieux pour d'autres personnes, Trump a pu traverser toutes ces époques avec toutes ces...
Tout à fait.
Voilà, il y a des tweets qu'il a fait. Si quelqu'un d'autre le faisait, peut-être il n'allait jamais pouvoir s'en sortir. Mais Trump, il peut dire comme il pense les choses. Et ça passe. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à expliquer comment est-ce que il y a cette tolérance envers certains de ses propos.
Oui, Scott voulait dire.
Oui, Bagassi, j'ajouterais qu'on rappelons que Trump a aussi eu son programme de télévision, de réalité. Donc,
fait.
Il connaît très bien ce monde-là, comment attirer l'attention, comment la garder. Entertainment. Alors, je crois qu'il a bénéficié aussi de ça. Il y a certains éléments-là.
Alors, Trump est donc président. Les défis qui l'attendent, pour vous, c'est lesquels? Morgane.
Bon, les défis pour moi, à l'époque, je le soutenais parce que je pensais que pour moi, c'était un entrepreneur. Il avait cette légitimité pour pouvoir, quand il parle de redonner à l'Amérique sa grandeur d'antan, pouvoir ressusciter l'économie américaine. Donc, en densifiant davantage le tissu économique, en créant à nouveau des conditions d'attractivité pour amener des gens à venir investir aux États-Unis. On voit qu'à peine son élection, on a déjà vu des exemples. Il y a Amazon qui a annoncé son implantation aux États-Unis avec 100 000 emplois à la clé. Donc, les défis qui attendent l'entrepreneur devenu président, pour moi, c'est sur le terrain de l'économie. Effectivement, si on crée de la richesse, ensuite on peut faire de la solidarité. Donc, s'il y a une réussite, s'il réussit sur le plan économique, il aura réglé beaucoup de problèmes, y compris les problèmes sociaux.
Alors, Bagassi Kora, vous, quel défi vous semble le plus pressant pour Donald Trump?
Moi, je pense que, comme il a dit, hein, la situation économique du pays, est-ce qu'il va maintenir le recouvrement de l'économie, parce que Obama l'a pris à un niveau assez bas et le taux de chômage a beaucoup baissé. Est-ce que ça va continuer sur cette lancée, ou est-ce que les nouvelles politiques qui vont être mises en place notamment vont peut-être constituer un frein, parce que le protectionnisme, on ne sait pas comment est-ce que les autres pays vont réagir, et du coup est-ce que le monde entier va se retrouver dans une guerre de protectionnisme où la Chine ferme ses frontières, l'Europe ferme ses frontières, les États-Unis ferment ses frontières, et est-ce qu'on va retourner dans une récession mondiale? On ne sait pas.
Alors, oui, Scott?
Mais j'ajouterais aussi que je pense que l'aspect social, il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas contents, même fâchés qu'il est devenu président. Et déjà, on a eu des manifestations.
Tout à fait.
Et quand, si il commence à diminuer les bénéfices sociaux, alors il va avoir encore beaucoup plus de problèmes sociaux. Et on pourra voir comme en 1968, quand le pays était vraiment divisé entre la gauche et la droite.
Alors, vous parlez des bénéfices. Il y a d'ailleurs l'un des défis qu'il doit pouvoir résoudre, c'est celui d'Obamacare, qu'il veut rayer de la liste et remplacer par autre chose. Est-ce que ça y pourra?
Et exactement. Et c'est ça un grand défi, parce que vraiment, il essaie de privatiser Obamacare, de mettre ça complètement dans le secteur privé, ce qui est bon. C'est bon en théorie, mais s'il y a des millions de gens qui ne peuvent pas payer l'abonnement et qui ont besoin d'aide pour réaliser ce rêve, alors ce sera très difficile.
D'ailleurs, certains analystes pensent que parmi ceux qui bénéficient d'Obamacare aujourd'hui, il y a bien ceux qui avaient voté ou qui ont voté pour Donald Trump. Donc, ça risque d'être un défi un peu compliqué. Morgan Palmer, l'immigration, Donald Trump en a parlé pendant la campagne. Est-ce que s'il ferme les portes aux étrangers, quelle image ça renvoie des États-Unis?
Le problème, c'est que le recentrage sur soi-même, ce n'est pas une exclusivité américaine. On l'observe de plus en plus un peu partout dans le monde. Même l'Allemagne, qui était très accueillante encore il y a quelques mois, aujourd'hui annonce des mesures des mesures qui ont tendance à refermer ses frontières. Non, on vit un peu ça aujourd'hui. Je crois que c'est dû à la récession. Vous savez, j'ai quelqu'un qui me disait souvent que c'est quand les ressources se font rares qu'on se souvient que son voisin vient d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a très peu de ressources dans le monde, et ça crée des antagonismes, ça fait qu'on se souvienne du coup que, bon, il y a à côté le voisin, et que peut-être si le voisin n'était pas là, on aurait son pain moins divisé. Donc c'est un phénomène mondial qui appelle aujourd'hui à repenser le système à l'échelle globale, repenser le système, à repenser les ratios de redistribution de la richesse, parce que c'est quand même assez terrible. Le monde n'a jamais été autant riche, mais il n'y a jamais eu autant de pauvres. Donc il y a bien quelque chose qui se passe quelque part et qui doit appeler à la responsabilité de ceux qui incarnent le leadership mondial pour qu'on revoie les ratios de distribution. Mais sinon, si ce n'est pas réglé, on ira de plus en plus vers ça, c'est-à-dire vers la fermeture des frontières dans des pays, parce que les politiques seront sous la pression de leurs opinions, et ils peuvent rien contre la pression des opinions, parce que le rôle des politiques, c'est quand même d'être élu à la fin, quoi. Et il n'est élu que par un électorat, et cet électorat, c'est son opinion.
Alors, on a vu aussi que Donald Trump a promis de renouer les relations, ou tout au moins d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie, comme l'a fait Barack Obama avec Cuba. Est-ce que, Bagassi Koura, vous croyez que c'est quelque chose qui sera accepté ici, étant donné déjà qu'il n'a pas caché son sentiment d'amitié vis-à-vis de Poutine, par exemple?
Non, je ne pense pas qu'il y aurait un problème en cela, parce qu'Obama même, à son temps, avait tenté aussi ce rapprochement avec Moscou. Tout dépendra de la manière dont ça va être fait. Est-ce que ça va être de façon brusque, tout en fermant tous ces dossiers qui sont ouverts ici à Washington, toutes ces enquêtes qui concernent la Russie? Est-ce que Donald Trump donc va un peu bousculer ces enquêtes, ou est-ce qu'il va laisser ces enquêtes faire leur temps et aussi utiliser le temps pour établir les relations, réchauffer les relations avec Moscou? Tout dépendra de la manière qu'il va approcher ce sujet-là.
Scott Bob.
Ma pensée, c'est que chaque président a un beau programme, mais il doit régler des problèmes qui lui restent, sont laissés par son précédent. Alors, M. Trump a devant lui deux guerres qui ne sont pas achevées, Irak, Afghanistan, des conflits, Syrie, Libye et d'autres, Mali, par exemple. Alors, il doit quand même faire quelque chose. Donc, parler de renouer avec la Russie, qui soutient par exemple Hezbollah et l'Iran en Syrie, il y aura des obstacles.
Et puis il y a l'énigme Corée du Nord. Morgan Palmer, le terrorisme figure évidemment dans la liste des défis qui attendent Donald Trump, et je sais que Paris en a été victime plusieurs fois. Est-ce que sur ce plan-là, quelle pourrait être la stratégie de Trump, à votre avis?
Ben, la stratégie, si je peux me permettre, c'est de couper tout simplement les sources d'approvisionnement du terrorisme dans le monde. Et ces sources d'approvisionnement, nous savons tous d'où elles viennent. Parce qu'il faut bien, les gens, il faut bien qu'ils s'approvisionnent en armement quelque part, en argent, pour pouvoir entretenir donc toutes ces armées terroristes. Donc moi, je suis pour qu'on revoie complètement le schéma de la gouvernance mondiale. On ne peut plus continuer à faire cette économie de la guerre, où on va foutre le chaos dans certaines contrées pour sous-traiter ensuite le maintien de la paix et tout le corollaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance mondiale crédible qui n'intègre cela et surtout qui n'intègre le dialogue entre les leaders du monde. Moi, ça ne me gêne pas du tout que Trump parle à Poutine, au contraire. Je crois que c'est vers ça qu'il faut aller pour que les problèmes soient solutionnés à l'échelle de l'échelle du monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, notamment avec ces mouvements migratoires, les déplacements de population d'un point A vers des points B, n'a pas d'autre motif que ça.
Voilà.
Les motifs, c'est que...
Oui. Merci Morgan. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Vous restez à l'écoute des programmes de VO Afrique avec les informations qui vont suivre juste après moi. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.
Merci. Au revoir.